RTL Matin,
c'est vous en dire plus.
Il est 7h38 et RTL est donc ce matin le théâtre d'un petit événement, puisqu'il est extrêmement rare qu'un président de la République vienne s'asseoir au petit matin dans un studio de radio, hors bien sûr les campagnes électorales, pour répondre aux questions qu'on a envie de lui poser, sans que rien, je le précise, n'ait été préparé avec qui que ce soit à l'Élysée. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Qu'est-ce qu'il faut lire d'ailleurs derrière cette démarche novatrice, un président à la radio au petit matin ?
Oui, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit novateur, c'est que j'avais envie de parler à la France qui travaille, qui se lève tôt, dont j'imagine que la vie est bien difficile, mais en même temps qui ne demande rien d'autre, qui ne casse pas les abribus, qui ne manifeste pas et qui n'en a pas pour autant moins de problèmes que les autres. Et la radio, me semble-t-il, le matin, après la visite que je viens de faire à Rungis, c'est une façon de m'adresser à ces gens qui sont soit au travail, soit dans leur voiture, qui vont au travail et qui aussi ont le droit d'essayer de comprendre ce qu'on essaye de faire pour notre pays.
Alors avec Jean-Michel Apathy et Alain Duhamel, que je salue tous les deux, bonjour messieurs.
Bonjour.
Nous avons choisi de vous interroger sur les sujets qui préoccupent nos auditeurs, en commençant par la vie chère, le pouvoir d'achat. Justement, vous étiez à Rungis avant de venir ici. Rungis, c'est le grand marché de gros de la région parisienne. Vous avez vu des bouchers, des fromagers, des fleuristes. Il y avait une idée derrière cette visite. La France qui se lève tôt encore.
Oui, bien sûr. Puis la vie chère, la vie est chère. La vie est trop chère. La vie est plus chère en France qu'ailleurs. Et ça ne sert à rien de nier cette réalité.
Vous savez à qui la faute ?
Oui.
À qui ?
Oui, un système qui n'organise pas assez de concurrence. L'autre jour, Luc
Chatel. C'est les distributeurs qui font que les prix sont élevés ?
Pour partie, quand même. L'autre jour, Luc Chatel, qui est un des ministres remarquables du gouvernement de François Fillon, a fait une comparaison. Il était à Strasbourg, mais il me l'a raconté. Et puis il a été voir les prix dans un supermarché. Et puis ensuite, un quart d'heure après, il a été de l'autre côté de la frontière en Allemagne, à Köln. Et qu'est-ce qu'il s'est aperçu ? Qu'il y avait sur les mêmes produits, et puis l'euro, au moins ça sert à ça, 15% de cherté en plus du côté français que du côté allemand. C'est pas normal, je ne l'accepte pas. C'est la raison pour laquelle Christine Lagarde et Luc Chatel défendront, dans les heures qui viennent, le texte sur la modernisation de l'économie, qui prévoit trois choses, pour faire court et clair. Un, la possibilité pour les fournisseurs et les distributeurs de négocier leurs tarifs, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'était pas le cas. Deux, plus de concurrence entre les grandes surfaces, parce que j'observe que dans certaines zones, ce sont des surfaces qui appartiennent à un même groupe, donc il n'y a pas de concurrence. Et troisièmement, une petite révolution en France, la création d'une seule entité unique pour garantir la concurrence, parce que par la concurrence, on va faire baisser les prix.
Mais en même temps, il y a deux facteurs sur lesquels vous ne pouvez pas grand-chose, qui sont les facteurs pétroliers, l'augmentation du pétrole, à moins que vous nous annonciez ce matin que le gouvernement va prendre en charge ce problème-là, et l'augmentation des matières premières.
Alors, là-dessus, si vous me permettez un mot sur les questions de pétrole, parce que je sais que ça préoccupe les Français, et puis écoutez, quand on fait son plein, on est affolé par l'augmentation, même si l'augmentation du plein ne correspond pas à l'augmentation du brut. Mais enfin, que les choses soient claires, j'étais ministre des Finances en 2004. À mon souvenir, le baril de pétrole était à 42 dollars. Il est aujourd'hui aux alentours de 130. C'est quelque chose comme ça. Donc ça a quasiment triplé, c'est en voie de quadrupler. Et ayons le courage de dire aux Français, ça ne va pas s'arranger.
C'est une crise durable.
Enfin, je ne sais pas si c'est une crise, M. Apathy. C'est que la demande en produits pétroliers est de plus en plus forte et l'offre n'augmente pas. Ou très peu, c'est la raison pour laquelle j'ai été vendredi dernier en Angola, qui est un pays qui va nouvellement arriver sur le marché du pétrole, qui va produire 2 millions de barils de pétrole par jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a deux réponses, me semble-t-il. Une réponse structurelle, puis ce qu'on peut faire tout de suite. La réponse structurelle, elle est, je crois, simple. L'énergie nucléaire. Nous venons de décider la construction d'une centrale nucléaire de la troisième génération. Mettre le paquet sur les énergies renouvelables, comme on l'a fait il y a 40 ans sur l'énergie nucléaire. Autrement dit, je voudrais faire pour les énergies renouvelables ce que le général de Gaulle avait fait pour le nucléaire. Grâce à lui, la France a une avance en matière énergétique. Notre objectif, c'est d'avoir 20% de notre énergie qui vient des énergies renouvelables. Le solaire, la biomasse, l'éolien. Troisième chose, les économies d'énergie. C'est tout ce qu'on a fait avec Jean-Louis Borloo pour le Grenelle de l'environnement. L'incitation fiscale, je vais me battre en tant que président de l'Europe à partir du 1er juillet pour qu'il y ait une fiscalité à 5% pour tous les produits propres, car il n'est pas normal que les produits économes en consommation vaillent plus cher que les produits qui ne sont pas économes en consommation. Et donc, on va, ça, c'est la réponse durable, oui. Stratégique.
Mais pour il y a un certain nombre de professions qui appellent à l'aide en ce moment. Hein, il y a les transporteurs routiers, il y a les taxis, il y a les infirmières libérales notamment, etc. Non, mais... Il y a évidemment les pêcheurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Il faut faire deux catégories là-dedans. Pardon d'essayer d'être très clair, mais pour voir, parce que d'un côté tout le monde me dit il faut que le pétrole baisse. Ah bon, comment? Je vais pas prendre l'impôt des Français pour subventionner le pétrole, parce que si on obtient des baisses de prix de pétrole avec l'impôt des Français, en termes de pouvoir d'achat, ce qu'on leur a donné d'une main, on leur a pris de l'autre. Je ne vois pas tellement l'intérêt. Alors, sur les professions qui sont très exposées à la hausse du pétrole, je crois que ce qui est très important pour nous, c'est de veiller à ce que ces professionnels puissent répercuter dans leur prix l'augmentation du coût du gazole. Ça, c'est extrêmement important. Tous ne peuvent pas le faire.
Puis ça ne va pas ranger le pouvoir d'achat des Français, ça.
Attendez, on va venir.
Si les transporteurs augmentent le prix de leur service.
Monsieur Apathy, si on essaie de répondre à plusieurs questions à la fois, on ne va pas y arriver. Je peux répondre sur la question du pouvoir d'achat. Je suis là pour ça, bien sûr. Mais Alain Duhamel me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis désolé. Si ça coûte plus cher d'organiser le transport routier, il n'est pas anormal que le camionneur ou l'entreprise de transport puisse répercuter sur sa facture à celui qui lui demande de transporter le prix. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ainsi, l'ambulancier étant sur des prix fixés par l'assurance maladie, lui, il ne peut pas répercuter. Ainsi, le pêcheur, et c'est bien tous les problèmes, eux, ils ont une double difficulté, un problème de ressources. Parce que ça coûte de plus en plus cher de sortir le bateau du fait du prix du gasoil, et en même temps, il y a de moins en moins de ressources. Donc il faut qu'on les aide, ceux-là. Et en même temps, comme on ne peut pas répercuter sur les prix, la totalité, compte tenu de la concurrence,
alors qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement?
Alors, ceux-là, pour la pêche, Michel Barnier, qui a fait un travail assez remarquable d'ailleurs, a prévu un plan de 310 millions d'euros. Je me suis impliqué totalement avec le Premier ministre dans ce plan. Je crois que c'est un plan de qualité. D'ailleurs, j'entendais les représentants d'un pêcheur qui dit « Ah ben maintenant, le problème n'est pas national, il est européen ». Ça veut donc dire que sur le plan national, on avait quand même mis en place un certain nombre de choses. C'est un métier très difficile, extrêmement dangereux. Il y a une vingtaine de pêcheurs qui meurent chaque année. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je n'ai pas voulu qu'ils soient dans la réforme du régime des retraites. On a garanti leur régime sans augmentation, parce que je considère que sortir dans le golfe de Gascogne ou en Bretagne, ça présente un danger, une spécificité. Et puis, j'ai demandé avec le Premier ministre, un ministre des Finances, de voir comment on pouvait faire deux choses. La première, c'est que toutes les recettes supplémentaires dues à la TVA sur les produits pétroliers, à partir d'un certain niveau dont nous allons débattre à l'intérieur du gouvernement et avec les professionnels concernés, soient mises dans un fonds qui va nous permettre d'aider les Français qui en ont le plus besoin à faire face à cette augmentation. Ainsi, vous savez qu'il y avait une prime à la cuve compte tenu de l'augmentation du gasoil de 150 euros. Pour le fuel, oui. Non seulement on la pérennisera pour l'année prochaine, mais on la portera à 200 euros. Et on financera ça par ce surcroît de recettes. Enfin, troisièmement...
On a une idée du montant de ce surcroît?
Écoutez, en matière de...
Parce que ça, pas beaucoup de transparence, hein?
Ben, je vais essayer de la faire, vous savez, je n'ai rien à cacher du tout. S'agissant de la TIPP, il n'y a pas d'augmentation de recettes. Pour une raison simple, c'est que la TIPP n'est pas fonction du prix, mais du volume. Donc chacun comprend bien que si le prix augmente, le volume a plutôt tendance à baisser, et donc que la TIPP ne rapporte pas davantage.
En revanche, la TVA...
En revanche, la TVA qui ne porte pas, comme vous le savez, sur la totalité du prix, en revanche, celle-ci augmente, je crois que ça devrait pouvoir être entre 150 et 170 millions par trimestre. Je voudrais qu'on consacre l'ensemble de ces sommes au financement, aux aides. Je pense aux tarifs sociaux sur le gaz qui bénéficient à 750 000 familles. Je pense donc à la prime à la cuve qui en bénéficie à un peu moins d'un million de familles. Mais je voudrais aller plus loin. Ce n'est pas une promesse que je veux faire, c'est une réflexion que je fais. Et poser à nos partenaires européens la question, si le pétrole continue à augmenter, est-ce qu'on ne doit pas suspendre la fiscalité pour sa part TVA sur le prix du pétrole. Pourquoi dois-je en parler
Suspendre, ça veut dire quoi ?
Suspendre, ça veut dire que la TVA ne s'appliquerait plus à un niveau donné.
C'est-à-dire geler
un niveau. D'accord.
Le problème. Et ça serait quand, ça ?
Non, monsieur.
Proposition européenne.
C'est parfaitement européen. Pour décider, il faut l'unanimité.
Justement.
Donc il n'est pas question de le promettre, puisque naturellement, je ne peux pas le décider tout seul, puisque c'est une décision qui serait européenne. Mais j'imagine que la France n'est pas le seul pays confronté à l'augmentation du pétrole. En même temps, il faut que je fasse attention, parce que tout ce qu'on a fait avec le Grenelle de l'environnement conduit à l'économie d'énergie, aux énergies propres, pour préserver les équilibres de la planète, pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, et donc pour avoir un développement durable. Donc je dis aux Français, le pétrole va continuer à augmenter, le pétrole de toute manière, dans 50 ou dans 60 ans, il n'y en aura plus, et il ne faut pas consacrer les moyens que nous avons sur la baisse artificielle du prix du pétrole, mais sur l'investissement pour permettre à l'économie française de faire face structurellement à cela. Ceci posé, si on a un baril qui continue à augmenter, je veux dire à nos partenaires, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que la TVA, elle n'est pas proportionnelle au volume, mais elle est proportionnelle au prix. Et donc j'aimerais beaucoup qu'on puisse discuter avec nos partenaires d'une possibilité. Alors à quel niveau on
la... Et ce n'est pas une décision que vous pourriez prendre seul en France ?
Non, non.
Monsieur c'est pas gênant que vous puissiez pas la prendre seul ?
Non, mais enfin, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prendre une décision seule que ça vous empêche d'avoir des idées seules. Hein ? Parce que si personne n'a d'idées, il n'y a pas de chance de convaincre les autres. Donc c'est une proposition. Je lance. Pourquoi ? Parce que dans cette affaire, chacun doit bien comprendre que la TVA est une recette européenne pour partie, et que la règle, j'essaye de la faire bouger. Je vais m'en expliquer d'ailleurs. Je veux la faire bouger sur trois aspects. Un, j'aimerais qu'on puisse convaincre l'Europe, et je vais m'y atteler, que tous les immeubles construits en haute qualité environnementale bénéficient d'une fiscalité à 5,5. Deux, j'espère que nous allons bientôt gagner, ça bouge. La fiscalité, qui était la promesse de Jacques Chirac pour les restaurateurs, qui n'avait pas été honoré et que je dois absolument honorer à la suite d'un long processus européen. Trois, je ne renonce pas, bien au contraire, je veux poser la question de la fiscalité sur les disques et la fiscalité sur les vidéos. Si ça continue, on ne vendra plus un disque en France. Il n'y a aucune raison que la fiscalité sur les livres bien culturels soit à 5,5 et que la fiscalité sur les disques, bien culturels aussi, soit à 19,6, voire sur les vidéos. Donc c'est tout chantier. Mais j'aimerais en même temps dire, attention, si le baril continue à augmenter, est-ce qu'on doit garder un taux de TVA proportionnel au prix dans les mêmes conditions ? Ma proposition, c'est qu'on le stabilise. Voilà, je voudrais bien que vous me compreniez. Ce n'est pas une promesse, puisque ce n'est pas la France qui peut décider tout seul, mais ce pourrait être une réponse, piste, disons, de moyen terme. Donc vous voyez, réponse sociale pour le court
moyen
terme.
Moyen terme, c'est avant la fin de l'année ?
Non.
Non.
Enfin, il faut. Vous connaissez les processus européens,
oui,
mais
tout
monsieur
Duhamel. Tout le monde les connaît pas.
Vous connaissez
pas
les processus européens, mais de toute manière, monsieur Duhamel, je ne suis pas venu pour dire que l'année prochaine, les prix du pétrole diminueront quand même.
Hein ? Est-ce que cette crise pétrolière face à laquelle nous sommes aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, fait peser un doute sur le niveau de croissance des pays européens, et donc en particulier de la France ? Et est-ce que vous essayez d'en anticiper les effets sur la construction du prochain budget ?
Écoutez, ça ne nous facilite pas la tâche, puisque depuis un an, je suis président de la République, 13 mois, le prix du pétrole a doublé. Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais il se trouve que c'est comme ça. En plus, on a la crise des subprimes, les déficits américains et un certain nombre de difficultés. Mais pour autant, je voudrais dire aux Français que leur travail commence à porter des fruits. La croissance de 2007 a été à 2,2. Je le dis à nos auditeurs, la totalité des experts imaginaient une croissance au maximum à 1,8. On est à 2,2. Et pour 2008, le premier trimestre, 0,64 de croissance. Les investissements des entreprises ont augmenté de 7,5%. Quant au chômage, il est à un niveau historiquement bas. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas eu un si petit nombre de chômeurs.
Ça continue à votre connaissance ?
Eh bien, moi, je vous le dis, ça va continuer.
Mais ce choc pétrolier a bien,
non,
des...
Attendez,
ce choc pétrolier a bien des conséquences.
Le chômage va continuer. Pourquoi ? Parce que toute la politique que nous mettons en œuvre, qui consiste à libérer l'offre de travail, c'est-à-dire à permettre aux quinquagénaires de continuer à travailler, à permettre la réforme de la formation professionnelle, il y a des tas de secteurs où on cherche des emplois, à obliger un chômeur qui ne le voudrait pas à satisfaire une offre d'emploi qui est raisonnable. Après deux refus, je souhaite qu'il y ait une sanction. L'essentiel, la majorité des chômeurs sont de parfaite bonne foi, ils veulent trouver un emploi. Mais la minorité qui ne le veut pas, eh bien les autres n'ont pas à travailler pour payer des allocations à celui qui ne fait pas tout pour s'en sortir. Eh bien, cette politique, les heures supplémentaires, 59% des entreprises se servent des heures supplémentaires. Alors, vous mettez la baisse des prix par la concurrence. Le pouvoir d'achat par les heures supplémentaires. L'intéressement. On va doubler la possibilité d'intéresser. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui donneront aux salariés une partie des bénéfices auront un crédit d'impôt de 20%. On n'a jamais été aussi ambitieux. C'est la réponse sur le pouvoir d'achat.
Mais ce choc pétrolier n'aura pas de conséquences sur la croissance ?
Mais il a des conséquences.
Vous essayez de les anticiper ?
Oui, mais, monsieur Apathy, le fond de ma pensée, au fait, c'est que s'il n'y avait pas ce choc pétrolier, il faudrait quand même faire ces réformes. Parce que le problème économique de la France ne vient pas du prix du pétrole, il vient de l'insuffisance de quantité de travail et des verrous que l'on mettait pour empêcher les Français de travailler.
Et malgré toutes ces difficultés, le pétrole, la crise financière, etc., vous pensez toujours qu'on peut échapper à ce qu'on appelle, quel que soit le mot, un plan de rigueur ?
Mais je ne crois pas à la rigueur, monsieur Duhamel. Pour une raison très simple, c'est que des gens très brillants, très honnêtes et très compétents s'y sont essayés bien avant moi. Qui ? Monsieur Barr a fait pendant 5 ans une politique qui a été communément décrite comme une politique de rigueur. Mais d'autres, monsieur Delors ou monsieur Bérégovoy, et qu'est-ce que ça a amené ? Plus de chômage, plus de déficit et moins de croissance. Pourquoi ? Parce que la rigueur, ça consiste à tordre les dépenses sans se préoccuper d'augmenter les recettes. Qu'est-ce que je veux faire ? Maîtriser les dépenses pour que chaque centime d'euro dépensé soit bien utilisé, mais en même temps obtenir de la croissance pour que la colonne des recettes, ça augmente. Voilà pourquoi il n'y aura pas de politique de rigueur. Non pas pour des raisons idéologiques, mais parce que ça échoue. Et je dis aux Français, ça commence à porter ses fruits. La libération du travail en France. Il y a 12 pays sur 27 en Europe qui connaissent le plein emploi et plus de croissance que nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce que je suis en train d'essayer de proposer aux Français aujourd'hui.
Dans vos réponses tout à l'heure.
Le chômage va continuer à baisser et c'est capital.
Ça veut dire qu'à la fin du mois, on nous annoncera un chômage en forte baisse.
Et
dans 3 jours.
On verra.
À la fin de la semaine.
En fait.
On verra si. Ce que je dis, mais pour moi, je ne travaille pas pour le mois prochain. J'ai un mandat de 5 ans. J'ai encore 4 ans à faire. Et les Français attendent de moi des résultats. Ils n'attendent pas de moi que je travaille au mois le mois, à la semaine, semaine. J'essaie de travailler pour tous les Français sans aucune exception et faire un travail qui est un travail structurel. Vous savez, moi, je préférerais pas avoir toutes ces réformes à conduire. Hein. Si elles avaient été faites, ce serait beaucoup plus simple. Moi, ça ne m'amuse pas d'expliquer aux Français qu'ils doivent cotiser 41 ans. Seulement, je leur dis.
On va en reparler.
Français,
on va en reparler.
Pour les protéger. Pour protéger notre système de retraite. Il faut faire cela. Parce que si on ne le fait pas,
on va en reparler
tout à l'heure après 8h.
Dans vos réponses tout à l'heure, vous dites que face à la crise pétrolière, il faut apporter des réponses structurelles, c'est-à-dire relancer un programme, par exemple, d'énergie nucléaire. Vous annoncez, ou vous souhaitez, des baisses de TVA sur le disque ou sur les produits propres. Quand on connaît l'état des finances publiques et le défi qui est celui de votre gouvernement de revenir à l'équilibre en 2012, on se demande comment vous allez faire à la fois dépenser davantage d'argent public et retrouver un équilibre alors qu'il y a 40 milliards de déficit à peu près par an.
Cela
ne paraît pas logique, justement.
C'est parce que je ne me suis pas encore expliqué, sans doute. La cohérence de tout ça, c'est d'augmenter la création de richesses par l'augmentation du travail. Je prends l'exemple de la durée de temps de travail. Moi, je suis partisan de maintenir une durée hebdomadaire du travail.
35 heures.
Oui.
Contrairement à...
Ne serait-ce pour une chose. Je ne vois pas comment on peut calculer les heures supplémentaires s'il n'y a plus de durée hebdomadaire du travail.
Il y a des gens autour de vous qui n'ont pas l'air de comprendre.
Eh bien, mais c'est leur droit de penser comme cela. Moi, je vous dis que la politique du gouvernement... La politique de François Fillon, du gouvernement et de moi-même, elle est celle-ci. Il y aura toujours une durée hebdomadaire du travail en France, et elle sera de 35 heures. Et ma réponse, elle est définitive. En revanche, ce que je souhaite, c'est qu'on supprime tous les verrous qui empêchaient les Français de travailler. Et c'est toute la cohérence, monsieur Apathy. Nous aurons davantage de recettes, parce que nous aurons davantage de travail. Ainsi, l'UNEDIC, au mois de janvier, a fait 1 milliard d'excédents. Pourquoi ? Parce qu'il y a des créations d'emplois. Savez-vous qu'il y a eu 330 000 créations d'emplois en 2007 ? Et c'est là ce qui me différencie d'une stratégie comptable ou de rigueur. C'est que je veux augmenter la recette, je veux augmenter la création de richesses en augmentant le travail, sur la base de liberté de choix. Prenez l'affaire du travail le dimanche. Nous sommes le pays du monde qui reçoit le plus de touristes, 70 millions. Est-ce que c'est normal que les touristes venant notamment le dimanche, on soit fermé le dimanche ? C'est un jour de croissance en plus. Personne ne doit être obligé de travailler le dimanche. Mais ceux qui ont envie de travailler le dimanche, pourquoi doivent-ils faire un procès pour que leurs magasins puissent être ouverts et eux-mêmes gagner du pouvoir d'achat. Donc là où vous auriez raison, me dire toutes ces dépenses, comment vous allez financer si vous n'augmentez pas la quantité de travail? Moi, je veux augmenter la quantité de travail. Écoutez, sur les heures supplémentaires, il y a 5 millions de salariés qui en font aujourd'hui, qui ont touché 5 milliards et demi de pouvoir d'achat supplémentaire. C'est avec ça qu'on peut financer. J'ajoute que quand on... Le système de Jean-Louis Borloo sur les voitures, vous savez, le bonus-malus, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Le mois dernier, les 5 véhicules automobiles les plus vendus en France bénéficiaient du bonus. Ce sont des véhicules propres. Et quant aux véhicules qui ne le sont pas, la chute le mois dernier, 40% de ventes en moins. Ça prouve quoi? Qu'on peut avoir une stratégie de développement durable.
Monsieur le Président, on va marquer une pause. Le temps peut-être pour vous d'aller boire un café à la table de la rédaction.
Ah bah si vous me l'offrez.
La table de la conférence nouvelle. De rédaction, il est 7h59.
RTL Matin, c'est vous informer.